Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Quelle surprise, chers auditeurs, quelle surprise! Tout était plié, ficelé, envoyé et patatras. Le plan électoral de Benjamin Netanyahou s'est effondré. D'abord, le Premier ministre avait précipité les élections de la Knesset. Par ailleurs, il avait demandé que le procureur général repousse son inculpation pour corruption. Ensuite, il avait mobilisé la droite et l'extrême droite pour lui faire gagner les élections. Enfin, la victoire assurée, Netanyahou se préparait à faire voter une loi d'immunité par sa majorité de députés. Tout était en place. Et puis soudain, survient le grain de sable dans la mécanique. Au moment de former son gouvernement, son allié de 10 ans l'a lâché. Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, a refusé de rentrer dans la coalition de Netanyahou qui s'est retrouvée en minorité. Du coup, retour à la case départ, la Knesset est dissoute et les citoyens israéliens retrouveront le chemin des urnes en septembre prochain. L'événement est encore trop récent pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais nous avons demandé à Igal Palmor de nous éclairer sur la situation. Igal Palmor a été pendant plusieurs années le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Israël, puis il a pris la direction des affaires internationales de l'agence juive. Igal Palmor, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous aussi.
Bonjour, Igal Palmor. Bonjour et merci d'être là. Rapidement, une première question. La dissolution de la Knesset par ses membres, c'est tout à fait inédit dans l'histoire d'Israël. Est-ce que le président Rivlin ne pouvait pas demander à Benny Gantz d'essayer un nouveau gouvernement ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Est-ce que ce n'est pas la règle de procéder de cette manière ?
Alors, la règle, normalement, c'est qu'après les élections, le président charge un des députés qui aura été recommandé par une majorité des partis consultés par le président de former une majorité parlementaire et donc un gouvernement. Si celui-ci ne parvient pas à former cette majorité, il doit revenir vers le président, lui dire qu'il a échoué, et dans ce cas, le président charge un autre député, soit du même parti, soit d'un autre parti, toujours selon les recommandations des différents partis qu'il doit consulter. Mais Netanyahou a court-circuité ce processus en amenant la Knesset à voter sa propre dissolution. C'est évidemment un processus tout à fait légal, mais c'est aussi un processus sans précédent, car dans le passé, lorsque le député chargé par le président de former un gouvernement avait échoué, c'était le cas de Shimon Peres et de Tzipi Livni, eh bien, ils étaient retournés vers le président pour lui remettre le mandat, pour lui rendre le mandat. Netanyahou est le premier à faire recours à la Knesset pour qu'elle se dissout elle-même et dans ce cas, cela court-circuite le processus passant par le président et nous allons vers de nouvelles élections.
C'est très clair. Dites-nous, Igal Palmor, pourquoi le Premier ministre sortant, Netanyahou, n'a pas essayé de mettre en place un gouvernement d'union nationale, soit avec Carole Lavan, la liste de Benny Gantz, qui était deuxième, ou le Parti travailliste ? Ça n'aurait pas été une première en Israël de voir une union nationale ?
Oui, ça n'aurait pas été une première, et du point de vue du compte simple des sièges, cela aurait pu lui fournir une belle majorité, à lui ou en tout cas à son gouvernement. Mais il se trouve qu'il avait mené les négociations pour la formation du gouvernement dans le but d'éviter tout ennui judiciaire, tout devoir de comparaître devant la justice. C'était des exigences qu'il avait posées au parti de droite, au parti ultra-orthodoxe, au parti de Lieberman notamment, pour entrer dans la coalition. Et dans ces conditions-là, le bloc bleu-blanc avait dit qu'il refuserait de siéger avec Netanyahou, en tout cas tant qu'il était inculpé. et que tant qu'il allait être inculpé, il n'est toujours pas inculpé, tant que des soupçons pesaient sur lui et tant que le procureur de l'État avait déclaré son intention de l'inculper. Maintenant, ils avaient pendant la campagne déclaré que si Netanyahou s'engageait à quitter son poste une fois qu'il serait inculpé, s'il était inculpé, il était possible pour eux d'envisager un gouvernement d'union nationale. Mais comme Netanyahou ne veut pas s'engager, et il déclare haut et fort que même inculpé, et même en comparaissant devant la justice, il continuerait à siéger à la tête du gouvernement, eh bien, dans ces conditions-là, Bleu et Blanc ne peut pas, selon tout ce qu'ils ont déclaré, ils ne peuvent pas siéger ou donner ou prêter main forte à ce genre de gouvernement, à ce genre de Premier ministre plutôt. Mmh. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucun souci à siéger avec le Likoud, mais pas sous un Premier ministre
inculpé,
qui devait passer ses journées devant la justice. Et donc ceci explique la non-possibilité de créer un gouvernement d'union nationale, alors qu'avec le parti Avoda, Netanyahou avait tenté le coup, mais vraiment à la dernière minute, 48 heures avant la fin du délai. Cela a été perçu par les membres du parti comme une tentative désespérée de les utiliser, en fait de les instrumentaliser, et pas comme une tentative honnête de faire un partenariat politique. Et donc ils ont rejeté l'offre qu'ils estimaient pas sérieuse.
D'accord. Alors, Yigal Palmore, voyons un peu maintenant les retombées de toute cette affaire qui est importante. Est-ce que les procédures judiciaires contre Netanyahou vont être bloquées jusqu'aux prochaines élections, ou est-ce qu'on risque de voir le procureur général, Mandelbit, de convoquer et accuser le Premier ministre prochainement?
Alors, les procédures judiciaires n'ont rien à voir avec le calendrier politique. Elles ne sont pas soumises, ne doivent pas être soumises au calendrier politique et même aux élections. Donc s'il y a une procédure judiciaire, elle se poursuivra. Si Mandelblit, le procureur général, convoque Netanyahou et ses avocats pour une audition, eh bien ça se fera quelle que soit la date des élections anticipées. Cela ne devra avoir aucune influence, Mandelblit l'a déjà déclaré, et donc on pense savoir que toute cette procédure devrait se terminer avant la fin de l'année par une inculpation ou plusieurs inculpations du Premier ministre, puisque la procédure poursuit son chemin.
Très bien. Veuillons maintenant au plan international. Veuillons voir un peu les retombées au plan international. Il y a Jared Kushner, qui était l'envoyé du président Trump, qui était en Israël et qui a rencontré Netanyahou. Et je pense qu'ils ont évoqué le mystérieux plan américain. Pensez-vous que les négociations avec les pays arabes et les Palestiniens concernant ce plan sont repoussées jusqu'après les élections, et même de septembre, et même peut-être beaucoup plus loin?
Je ne suis pas optimiste à propos des négociations, puisque nous voyons bien que le plan américain, qui n'est pas révélé, fait beaucoup parler de lui sans que personne ne sache de quoi il s'agisse. Et le jour où il sera publié, s'il est publié, puisque l'administration Trump a encore annoncé le report de sa publication, eh bien, le jour où il sera publié, il aura déjà fait tant de dégâts, en tout cas pas lui-même, pas le plan lui-même, dont tout le monde ignore la forme, mais l'idée que les gens se font de ce plan, eh bien, cela aura déjà fait tant de dégâts et créé tant de ressentiments et de refus. Le jour où ce document sera présenté, l'atmosphère, l'ambiance ne se prêtera pas vraiment à un retour à la table des négociations. Donc, d'autant que les circonstances politiques du côté israélien comme du côté palestinien ne sont pas de nature à soutenir ou à permettre aux dirigeants d'aller de l'avant et de prendre des décisions courageuses. La coalition de Netanyahou, quelle qu'elle soit d'ici septembre, quelle qu'elle soit, sera beaucoup plus fragilisée. Il sera le premier ministre qui aura qui aura en fait dissous la Knesset, dans laquelle il était censé entrer victorieux. Donc il sera un premier ministre fragilisé. Du côté palestinien, eh bien Abbas est de plus en plus affaibli politiquement. Il est en train de perdre énormément de soutien par ses démarches tyranniques. Il n'associe personne à ses décisions et il perd tout contact avec son public et son électorat. Quand je dis électorat, c'est un peu par ironie, parce qu'il n'y a pas eu des élections depuis de très longues années chez les Palestiniens. Donc on aura affaire à des dirigeants très affaiblis politiquement dans leur camp. Et on ne voit pas l'administration Trump pouvoir faire passer en force ce plan de paix.
D'accord. Donc les circonstances ne sont pas favorables.
Non.
Une dernière question, Yigal Palmor, car le temps passe. Ehud Barak, je l'ai entendu dire, Ehud Barak, on se souvient que c'était un ancien premier ministre, en train de dire que la carrière de Netanyahou était terminée. Je l'ai lu ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on enterre un peu vite le premier ministre?
Rapidement. Oui, je crois qu'il faut, bien sûr, il ne faut pas prendre pour de l'argent comptant ce genre de déclaration de la part de quelqu'un qui lui-même ne prend pas parti, il ne participe pas à la vie politique, il est un observateur, il jouit de la vie contemplative sur Twitter, et je dirais surtout pour Barak que ses annonces concernant l'avenir doivent être prise avec énormément de prudence, puisqu'on se souvient comment, étant justement ministre de Netanyahou, ministre de la Défense, il avait déjà annoncé, je crois en 2011 ou 2012, que les jours de Bachar Assad étaient comptés et qu'il n'avait pas plus de 6 mois pour rester président de la Syrie avant d'être évincé par la force. Bon. Tout le monde connaît la suite de l'histoire et donc si Ehud Barak a beaucoup de qualités, celle de prédire l'avenir n'en fait pas partie.
Ok, merci beaucoup Yigal Palmor, c'était court et intense. Merci d'avoir participé à notre rendez-vous sur Judaïque FM et je vous dis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Une dernière annonce. Il y aura un hommage à Amos Oz à l'Odéon à Paris le 17 juin à 20h. C'est organisé par son éditeur et par les services culturels de l'ambassade d'Israël. Donc le 17 juin à 20h à l'Odéon à Paris, hommage à Amos Oz. Voilà, bonne semaine à tous et à toutes et on se retrouve dans 15 jours pour une autre émission. C'était Paul Uzi Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.